Les Canuts, troisième partie, chapitre 3. Marius était resté chez lui tout le jour. Seul dans le grand atelier, assis près du poêle qui s'éteignait, il s'occupait à relire les brochures que la Société des droits de l'homme avait fait distribuer dans les sections. Le peuple souffre. Discours sur la misère du peuple. Le catéchisme républicain. Les réflexions d'un ouvrier tailleur sur la misère des ouvriers. Pêle-mêle sur la table, avec les vieux bouquins du père Bouvet, ses écrits lus et relus entretenaient l'exaltation dans son esprit, faussée par des raisonnements philosophiques mal compris, dont il ne lui restait que des théories confuses de revendications sociales. Dès le matin, il avait congédié Zabé. Là-haut, dans sa mansarde, sans souci de ce qui se passait au dehors, le bossu jouait sur son accordéon des complaintes langoureuses à l'adresse de Louise. Depuis que Marius s'était affilié aux droits de l'homme, la jeune fille, voyant son amour dédaigné, s'était d'instinct rapprochée de Zabé, lui avait involontairement fait des confidences et livré un peu de son cœur. Et l'âme tendre du pauvre compagnon s'était épanouie à ce rayon d'amour qui ne lui était pas destiné, mais qui le réchauffait, lui redonnait une lueur d'espoir. Le jour baissait. Marius, près de la fenêtre, poursuivait sa lecture. Brusquement, Madame Denegris entra. Elle venait lui apporter une lettre qu'un homme lui avait remise pour lui, dans l'escalier. Marius décacheta le pli. C'était une lettre de convocation de la société pour le soir même. Vite, il cacha le papier dans sa poche. Madame Denegris, par discrétion, se contenta de dire « Vous lisez donc toujours, Marius. J'ai peur que M. Bouvet vous rende un mauvais service en vous prêtant tous ces livres. J'ai besoin d'occuper mon esprit, » répondit-il. « Vous ne savez donc pas, comme il m'en coûte, de m'habituer à cet atelier vide ? Après tout, il vaut mieux que je reste là avec mes livres que de recommencer ma vie de l'année dernière. » « Oui, » reprit-elle embarrassée. « Mais j'ai peur que vous vous laissiez entraîner, Marius, et je demande à Dieu que vous restiez un honnête homme, que vous ne vous compromettiez pas avec les révolutionnaires. » À ces mots, il redressa la tête. « Pour ça, » dit-il, « je suis bien résolu. J'ai beaucoup réfléchi, et je sais ce que j'ai à faire. Mais si je suis pour la révolution, je ne suis pas un malhonnête homme. » Il expliqua sa conduite. Il était pour l'interdit parce qu'il croyait cette mesure nécessaire. Mais jamais il ne contraindrait des camarades à s'y soumettre contre leur gré. Ce n'était pas ainsi qu'il entendait son devoir. La coalition, suivant lui, suffirait à faire triompher la cause du peuple, si le peuple savait en tirer parti. Mais on ne pouvait répondre de l'avenir. S'il fallait encore descendre dans la rue pour défendre la liberté, lui, Marius, n'hésiterait pas. « Mais mon Dieu, » reprit Madame Denegris, « le jour où on aura excité ceux qui souffrent, il sera trop tard pour les diriger. Ils suivront les conseils des plus mauvais. Et vous trouverez tout naturel d'aller jusqu'au bout et de faire le coup de feu. Ce ne serait pas honnête. » « Car c'est vous et vos droits de l'homme qui auriez provoqué la révolution. » Marius secoua la tête. « Ah, » dit-il, « mon parti est pris. J'ai prêté serment aux droits de l'homme et tout ce que vous pourriez me dire ne me ferait pas faillir à l'honneur. »« L'honneur, Marius, » ajouta-t-elle doucement, « il consiste à ne pas manquer à sa conscience. Enfin, je n'ai pas le droit de vous donner des conseils. Mais je crois que, si votre pauvre mère vivait, elle dirait comme moi. Voyez-vous, je ne suis pas instruite. Mais j'ai vu la révolution. J'ai vu la guillotine au terreau. Et je frémis, rien que d'y penser. sans insister davantage, elle lui souhaita le bonsoir et descendit pour se rendre à un office du carême à Saint-Polycarpe. Marius alluma la lampe, remua le charbon du poêle, fit réchauffer de la soupe restée du matin et la mangea précipitamment. La soirée s'avançait. Il bourra sa pipe et sortit pour aller à la réunion. Sur le palier, il rencontra Louise. La jeune fille avait vu sa mère sortir de chez Marius. Après le départ de celle-ci, elle était restée sur le seuil de l'appartement, sous un prétexte quelconque, espérant le voir et lui parler. Depuis des mois, il ne s'adressait la parole que dans l'escalier, lorsque les hasards du voisinage les mettaient en présence. Il fut ennuyé de la trouver là. « Bonsoir, Louise, » dit-il. « Bonsoir, Marius, » répondit-elle. Sa voix tremblait. Cependant, c'était plus fort qu'elle. Elle avait besoin de rompre le long silence qui s'était établi entre eux. « Comme vous êtes rare, » ajouta-t-elle d'un ton de doux reproche. « Nous ne nous voyons plus. »«
Je suis si absorbé par mon travail, » reprit-il.
Elle secoua la tête d'un air incrédule. Il comprit qu'il donnait une mauvaise raison et, gauchement, risqua une explication.
« Et puis, continua-t-il plus bas, vous savez bien ce qui s'est passé. »
Le voyant si embarrassé, généreusement, Louise vint à son aide. « Ne savez-vous pas que mon amitié est toujours la même, Marius ?» Il y avait dans ses paroles tant de douceur résignée qu'il en fut ému. D'une voix grave, il répéta. « Votre amitié est toujours la même. Et pourtant, vous ne pouvez pas oublier les choses qu'il y a eu entre nous. « Si je les oubliais, reprit-elle rougissant, je n'aurais plus d'amitié pour vous. Mais je vous ai pardonné de bon cœur le chagrin que vous m'avez fait. « Vous êtes bonne, murmura-t-il. Il lui tendit la main. Elle y mit la sienne toute frémissante. Puis, comme si elle eût craint d'être surprise ainsi, elle la dégagea brusquement, fit deux pas vers la porte et, sur le point de rentrer, « Allons, » dit-elle contente. « Ne nous boudez plus maintenant que la paix est faite. Venez nous voir souvent. » Ils se dirent adieu, et Marius s'achemina vers la salle de la rue Tolosan, où les sectionnaires des droits de l'homme étaient convoqués. Afin de ne pas donner l'éveil à la police, chacun s'y rendait isolément et avait soin de passer non par la salle du cabaret, qui donnait sur la rue, mais par l'allée. Bresner montait la garde à la porte de la seconde salle et ouvrait à chaque membre muni de sa carte. Les ordres du jour du comité avaient recommandé la prudence. On faisait prendre les mots de passe et les signaux convenus. Lorsque Marius arriva, la salle était déjà aux trois quarts pleine et un bourdonnement de voix arriva jusqu'à lui. Cette pièce avait été autrefois un grand atelier de tissage. On voyait encore dans les murs les trous où s'engageaient les estaces des métiers. D'un bout à l'autre, des bancs s'alignaient en longues rangées. Une grande table, au fond, formait une estrade avec des chaises de chaque côté, le long du mur, pour les chefs de section. En entrant, Marius aperçut Nerbollier assis au bout d'un banc et causant avec des chefs d'atelier. Il alla se placer à côté de lui.
« Il y a du nouveau, » dit Nerbollier. « On parle d'un projet de loi qui interdirait aux crieurs publics de distribuer des publications républicaines. »«
Ah ? Et qu'en dit-on ? » ?»«
Qu'on veut nous pousser à bout et nous faire commencer la lutte, avant que nous ne soyons assez forts pour devenir les maîtres.
Mais rien n'y fera. Nous sommes prêts. »
Un ouvrier debout devant eux intervint.
Oui, on était prêts. Le comité de Lyon était relié à ceux de Saint-Étienne, de Grenoble, de Châlons, de Dijon, de Marseille et des autres villes voisines. C'était une immense association des départements de l'Est et du Midi dont Lyon était la tête. Les renseignements parvenus au comité étaient des plus favorables. Partout, les sections en permanence. Et un ordre venu de Paris et traversant Lyon suffirait pour soulever au même moment tout ce que Lyon, la Bourgogne, le Dauphiné comptaient d'ardents démocrates. S'ils n'étaient pas le nombre, ils étaient assez forts pour culbuter le gouvernement. Le pays ne broncherait pas et l'armée n'aurait pas le temps d'empêcher la révolution. Du reste, quand le jour viendrait, on serait surpris du grand nombre de soldats et de sous-officiers qui marcheraient avec le peuple. L'ouvrier parlait avec animation et, autour de lui, un groupe s'était formé. Marius avait déjà vu cette figure-là quelque part. Pourtant, il ne reconnut pas l'ancien commis pèlerin dans ce compagnon en blouse qui faisait ainsi des adeptes à la République. « C'est exact, tout ce que vous venez de dire, » reprit Nerbollier. « J'ai lu une lettre de Caussidière, de Saint-Étienne, au citoyen Tiphaine, sectionnaire de Lyon. Les républicains stéphanois sont pleins d'enthousiasme et n'attendent qu'un mot d'ordre pour marcher. » On entrait toujours. Dans la salle, c'était un bourdonnement continu de voix, coupé de temps en temps par une exclamation violente. C'était un va-et-vient de costumes pauvres, de visages pâles, qui se confondaient, à la lueur jaune des quinquets pendus au mur, dans une teinte uniformément grise et triste. Les membres du comité, groupés au fond, près de la table, venaient de prendre place. Beaune présidait, ayant à ses côtés Hugon et Antide Martin. D'un geste, il réclama le silence, et, tandis qu'il lisait au nouveau sectionnaire la formule du serment, Bresner fermait la porte au verrou et Solanel, avec sa face rouge et son ventre de charcutier, venait le long des murs moucher la mèche des quinquets. Quand les nouveaux sectionnaires eurent prêté le serment, Beaune, lentement, développa le caractère et le but de la société. Abolir l'exploitation de l'homme par l'homme. Détruire le privilège de quelques oisifs regorgeant de superfluité et de richesses dérobées à la multitude des travailleurs indigents. Rappeler tous les hommes à leur dignité, à la liberté, à l'égalité des droits politiques et surtout à une juste répartition des avantages et des charges de la société. Voilà quel était le but à poursuivre. On applaudit. Puis la tête haute et le regard dur, Beaune reprit posément et comme cherchant ses mots. Il avait une grande nouvelle à leur apprendre. Le gouvernement, effrayé de l'immense propagande de la Société des droits de l'homme, venait de présenter à la Chambre des députés un projet de loi relatif aux crieurs publics et un autre contre les associations. C'était de nouvelles provocations. La société ne pouvait laisser discuter ses projets de loi sans protester. À ces mots, des cris furieux éclatèrent. « Oui, oui, nous protesterons !» Beaune annonça que le comité avait rédigé une protestation qui serait soumise à la signature des sectionnaires. Puis, il lut une diatribe véhémente dans laquelle le comité déclarait son intention de résister par tous les moyens aux lois liberticides. Le président avait terminé sa lecture au milieu des applaudissements.
« Oui, oui !» répétaient des voix. « Nous résisterons !»
Déjà, un orateur était monté sur la table qui tenait lieu de tribune et frappait du talon pour réclamer le silence. Noir et trapu, avec une longue barbe broussailleuse et une chevelure en coup de vent, il attendait que le calme se fît. Dans la foule, on murmurait, avec une faveur marquée, le nom de Granier, de la glaneuse. Il parlait bien, celui-là. D'une voix vibrante, l'orateur commença. Après un exorde banal, plein de longues phrases sonores, il attaqua violemment le pouvoir, traita d'infâme et de tyrannique sa conduite à l'égard des populations ouvrières. Qu'avait-on trouvé pour remédier aux maux des tisseurs lyonnais? Des canons. Le gouvernement avait élevé des forteresses pour réduire à la merci des riches, des malheureux qui offraient leur travail sans autre condition que celle de ne pas mourir de faim. Il avait rassemblé des soldats, pauvres armés, destinés à contenir des pauvres sans armes. Ministres, pairs de France, députés, ne semblaient pas connaître de meilleurs moyens pour gouverner. Entrant alors plus avant dans son sujet, l'orateur représenta le pouvoir comme l'allié des fabricants qui opprimait les ouvriers. Habilement traité, cette idée devait soulever des haines plus directes. Le fabricant volait l'ouvrier, en rognant chaque jour sur son salaire. Il le volait, en le remplaçant par des machines. On arrachait aussi son pain aux travailleurs. Les découvertes de la science se transformaient en moyens d'oppression. La tyrannie était multipliée par le progrès. Dans ces repères qu'on appelait des usines, les artisans, qui travaillaient autrefois chez eux, libres, s'appartenant, faisaient place à des esclaves. Le prolétaire devenait le valet d'une manivelle. Et en temps de chômage, quand on ne voulait plus de ses bras, il n'avait plus à demander son pain qu'à la révolte ou à l'aumône. C'était la première qu'il choisirait. Des hurrahs frénétiques couvrirent la voix de Granier. Quand ils furent apaisés, l'orateur, poursuivant son discours, fit un sombre tableau de la misère du travailleur vieux et épuisé, allant mourir à l'hôpital, avec la douleur de voir sa fille, plus malheureuse encore, se prostituer sous ses yeux. Et, à ses infortunes, il opposa le bonheur insolent du riche, son luxe provoquant, ses fêtes bruyantes. Pendant une heure, il parla, développant sa rhétorique facile, excitant les passions mauvaises, appelant à la revendication de leurs droits méconnus ces pauvres qui l'écoutaient bouche béante, les yeux ardents. « Non, s'écria-t-il enfin, il ne faut plus de frelons dans la ruche humaine. Il est temps que les abeilles les chassent. L'épreuve sera dure, peut-être, et la tentative périlleuse. Mais pour la liberté, citoyens, vous êtes hommes à supporter la faim, la misère, l'horreur des cachots. Rappelez-vous de la devise de la glaneuse. La prison est le séminaire des patriotes. » Il se rassit au milieu d'applaudissements enthousiastes et de cris de « Vive la liberté! Vive les droits de l'homme !» Après lui, un inconnu monta à la tribune et, dans le brouhaha, déclama quelques phrases sur les souffrances du peuple. « Il faut, conclut-il, que le peuple se mêle de politique, qu'il s'en mêle beaucoup. C'est le moyen d'avoir des rentes, c'est le moyen de doubler sa récolte. Oh, oh, assez, assez! Pas de rente, hein, pas de bourgeois ici, n'en faut pas !» On fit descendre l'orateur. Alors le compagnon serrurier d'Espinasse, vêtu de toile bleue, escalada la table et d'une voix brève. « Citoyens, cria-t-il, à cette parole, il est temps d'agir. Remuez-moi un peu tous ces mutuellistes. Ils ont voté l'interdit, c'est bien. Mais qu'ils cassent la gueule sans scrupule au premier qui parlera de remonter sur son métier. » Des bravos partirent du groupe au milieu duquel se trouvait Pellegrin. Mais en même temps, Marius, Nerbollier et quelques autres protestèrent. Des interpellations se croisèrent, des altercations s'engagèrent au milieu du tumulte. Les mots de « lâche » et de « vendu » couraient d'un groupe à l'autre, tandis que, devant la tribune, le président Beaune, avec de grands gestes, réclamait le silence. Dans le vacarme croissant, d'Espinasse, exaspéré, criait plus fort. Il parlait de « foutre à bas » les fabricants d'abord par la faillite, puis les ministres, les députés, toute la séquelle. et, au pied de la tribune, ses amis battaient des mains. Ils étaient les plus nombreux. Les modérés, houspillés, refoulés vers la porte, s'apprêtaient à quitter la salle lorsque Beaune leva la séance. Aussitôt, Bresner, économe de son huile, se mit à éteindre les quinquets. Dans l'obscurité, le brouhaha continuait. Soulevant la poussière du plancher, les sectionnaires, tumultueusement, s'engouffraient dans l'allée étroite. Pellegrin, arrogant, s'éloigna avec des spinasses, entraînant après eux une bande de tapageurs. Derrière, les membres du comité, mécontents, se plaignaient de ce scandale et déclaraient que ces violences gâteraient le jeu si elles se reproduisaient. S'adressant à Nerbollier, Marius et leurs amis, « Vous avez raison, jeunes gens, » dit Anti de Martin. « Demeurez calme, c'est le moyen de rester fort. » Les groupes se séparèrent. La bande de Despinasse était allée droit au cabaret pour boire au triomphe de la République. Les autres sectionnaires rentrèrent chez eux par les rues désertes, éveillant au bruit de leurs souliers ferrés les gens paisibles qui dormaient.